Donc, on va parler ce matin du sabbat à partir de l'Ancien Testament. Donc, on va vraiment être concentré sur les premiers livres de l'Ancien Testament, qu'on appelle le Pentateuch, les cinq livres de Moïse, parce que effectivement, l'institution du sabbat est expliquée dans l'Ancien Testament. Alors, c'est quelque chose que j'ai redécouvert dans ma vie. J'avais une sorte de préjugé défavorable à l'égard de l'Ancien Testament. Et puis, en étudiant davantage l'Ancien Testament, j'en ai découvert les richesses. Je veux vous les partager ce matin et vous parler de ce sujet particulier du repos. On va espérer que l'image va venir pendant que je vais avoir commencé. Alors, les règles du jeu... Évidemment, c'est quelque chose qui demande de l'attention. Donc, une grande partie de ce que je vais faire ce matin, ça va être d'exposer, je dirais plus que la moitié de la période, ça va être d'exposer la base de la réflexion. Et ensuite, je vais vous faire travailler. C'est merveilleux, l'image est arrivée? Hein? Elle est pâle, par contre, là, pour un graphiste. Hein? J'ai des exigences très élevées en tant que graphiste. Elle est hors focus, elle n'est pas au foyer tout à fait, mais ce n'est pas grave, on va fonctionner avec. Alors, tu peux avancer la diapo, je t'en prie. Oui. Alors, ici, j'ai mis un extrait du psaume 132 qui parle justement que Dieu, l'Éternel, a choisi de faire de Sion, de Jérusalem, son lieu de repos. Et il en donne la raison. Il veut... Bénir ses ressources, il veut rassasier de pain ses pauvres et revêtir ses prêtres de salut et faire en sorte que ses fidèles poussent des cris de joie. Alors, quand on parle du sabbat, on parle de ce que Dieu veut faire, la bénédiction qu'il veut apporter au sein de son peuple et dans le monde à partir de cette institution du sabbat. Alors, on change de diapo. Alors, les règles du jeu. Alors, première règle, on fait avancer. Alors, j'ai mis une cible parce que je demande de l'attention maximale. Hein? Alors, c'est dur d'écouter aujourd'hui quelqu'un qui parle pendant une heure. C'est très, très difficile. Okay? On dirait que notre capacité d'être attentif a diminué. Alors, je vais vous demander toute votre capacité d'être attentif. C'est pour ça qu'on va avancer la diapo. Et je demande évidemment que les téléphones, vous savez, qui a un téléphone portable ici? Il y en a quelques-uns. Alors, on les met en mode sabbat. Hein, vous avez ça sur votre... Hein? En Israël, il y a un mode sabbat, en tout cas. Alors, vous le mettez en mode sabbat. Et puis, l'autre chose que je veux spécifier, c'est que vous allez avoir un temps où vous allez pouvoir participer. Je vais vous poser des questions, puis vous allez fournir vous-même les réponses ou les réflexions qui vont avec. Alors, ça ne sera pas au début, mais ça va venir. Alors, je vais vous le dire quand ça va arriver. Alors, j'attends de votre part que vous participiez, hein, qu'on se creuse les manèges un peu pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette institution du sabbat. Et finalement, on a besoin d'un scribe. Hein, comme on avait dans l'Antiquité, on a besoin de quelqu'un qui, pendant cette période d'échange, va pouvoir noter les perles qui vont sortir de notre bouche. Alors, qui sera notre scribe? Et voilà, nous avons une scribe. C'est extraordinaire, hein? On a évolué. Voilà. Alors, ça, c'est avancer la diapo. Donc, les règles du jeu, je les ai mentionnées. On va avancer assez vite. Je ne pourrai pas répondre à mesure à des questions que vous avez. Si vous avez une question, vous avez de quoi écrire, notez-la pour ne pas l'oublier. Vous pourrez me la poser après, en privé, puis je reviendrai là-dessus si je juge que c'est nécessaire. Mais si on s'arrête à toutes les questions, on n'avancera pas. Alors, on va y aller avec ça, OK? On change de diapo. Alors, on va regarder ensemble... On va regarder la Torah. La Torah, c'est un mot qu'on trouve dans la Bible. et on l'a traduit par la loi. Vous avez ici, le Seigneur a pris plaisir à cause de la justice à rendre la loi, c'est le mot Torah, grande et magnifique. Alors, quand on étudie la parole de Dieu, même dans l'Ancien Testament, on découvre que la Torah est grande et magnifique. On est ébloui. Plus on étudie, plus on est ébloui. Torah, vous savez, on le traduit par loi, mais ça ne veut pas dire ça, en fait. Ça veut dire enseignement. Donc, c'est l'enseignement de Dieu qu'on a dans les Écritures qui est grand et magnifique. On va avancer. Étant donné qu'on va faire ça ensemble, on va regarder la loi de l'Ancien Testament, l'enseignement de l'Ancien Testament. Bien souvent, quand on est confronté à la loi de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Bien, on se sent bien en dessous des critères, de l'idéal qui est exprimé dans cette loi. On sent qu'on n'arrive pas à la mesure de cette loi, et c'est tout à fait normal. Alors, Paul disait par rapport à le ministère, l'exercice du ministère, il dit « Qui est suffisant pour ces choses? » Qui d'entre nous est suffisant? Qui d'entre nous peut dire « Moi, je suis arrivé à vraiment obéir au commandement du Seigneur et ma vie chrétienne est exemplaire? » Personne. Alors nous, on vient vous parler du sabbat ce matin, aujourd'hui, puis demain, avec Hélène. Mais on sait très bien que par rapport à cette question-là du repos, on a nous-mêmes des difficultés énormes. Donc, on est tous un petit peu face à cet idéal qu'on va voir ensemble ce matin. On sent fragile, on ne sent pas à la hauteur. Et c'est dans cet esprit-là qu'on vient. On ne vient pas vous faire la leçon. On vient se servir le Seigneur pour qu'on soit tous mis en face de cet enseignement-là ce matin, ensemble, et que ça nous fasse du bien. De toute façon, nous sommes toujours entourés de l'amour et de la grâce du Seigneur. Et c'est entouré de l'amour et de la grâce du Seigneur que nous pouvons contempler l'enseignement de Dieu, la loi de Dieu, sans... On change de diapo? Sans paniquer. Hein? Alors, il n'y a pas de raison de se sauver par les fenêtres parce qu'on parle de la loi de Dieu. Alors, on va avancer. Alors, souviens-toi du sabbat. Souviens-toi du sabbat. Le sabbat, c'est un commandement qui est écrit dans les 10 commandements, dans les 2 tablettes que Moïse a descendues du mont Sinaï. Alors, je ne sais pas, on appelle ça les 10 paroles. Les Juifs appellent ça les 10 paroles. Alors, si vous avez seulement 10 paroles à dire, puis vous voulez fonder une société avec, allez-vous mettre quelque chose qui n'est pas vraiment important dans les 10? Vous avez juste 10, pas 12, hein? Jordan Peterson a sorti un livre, 12 règles pour une vie. Hein? Mais lui, là, il y en a 10, il n'y en a pas 12. Alors, c'est important du seul fait que c'est inscrit sur les 2 tables de la loi. Alors, on dit que ces commandements-là, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. D'ailleurs, Jésus a résumé toute la loi en disant qu'il s'agit d'aimer Dieu et son prochain. On avance. Habituellement, on présente les tables de la loi comme ça. Évidemment, on ne les a pas vues. Hein? Je ne peux pas vous garantir qu'elles étaient rondes dans le haut, mais il y en avait 2. Parce que c'est au pluriel. Donc, il y a 2 tables de la loi, aimer Dieu et son prochain. Alors, on avance la diapo. Bien, habituellement, on doit distribuer, évidemment, les commandements sur les 2 tables. Et puis, moi, j'ai vu des choses assez étranges dans la distribution des commandements. J'ai vu certaines présentations qui mettaient 3 commandements sur la table de Dieu et puis 7 sur la table du prochain. Parce que comme l'idée, c'est qu'il y avait juste 3 choses qui concernaient Dieu dans les 10 paroles. Mais les plus courants, c'est de mettre 4 commandements sur la table de Dieu et puis mettre tous les autres commandements, les 6 autres, sur la table du prochain. Donc, on inclut dans le prochain son père et sa mère. Hein, le prochain, c'est ton compagnon, ça. Alors, si on veut être fidèle à la tradition juive, à l'esprit du judaïsme, il y en a 5 par tablette. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que comment on va distribuer les autres sur la deuxième tablette? Parce qu'il y a une tradition juive qui dit qu'il y a une correspondance entre les commandements de la première tablette et les commandements de la deuxième. De manière à ce que le commandement de la première tablette qui concerne l'amour de Dieu vienne consolider, renforcer le commandement de la deuxième tablette avec laquelle il est jumelé sur la question de l'amour du prochain. Alors, si on fait ça, on le distribue comme ça, 5 commandements par tablette, ça veut dire que le commandement d'aimer, d'honorer son père et sa mère est inscrit sur la tablette de Dieu. Alors ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, ouais, est-ce que c'est ça que je fais, premièrement? Et puis ça, c'est qu'elle conditionne ma relation avec Dieu. Alors à ce moment-là, j'ai changé d'attitude à l'égard de mes propres parents. Je me suis dit, je vais consacrer plus de soins à mes parents. Ils sont vieillissants, ils deviennent vulnérables. Alors, c'est l'étape dans ma vie où je dois prendre soin de mes parents. Alors, on va regarder ce que ça donne. J'ai finalement trouvé qu'il fallait passer du commandement cinquième ici, puis remonter la tablette avec le sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Et qu'en faisant ça, les commandements qui sont en parallèle se soutiennent l'un l'autre. Alors, on avance là. Alors, un rapport qui est facile à comprendre, c'est honorer ses parents puis ne pas assassiner. Ici, il ne s'agit pas de ne pas tuer à la guerre. Ici, là, il s'agit de ne pas commettre de meurtre. Alors, on est tous capables de faire le lien entre les deux. Si j'assassine quelqu'un, je brise le cœur des parents. Je déshonore des parents qui se sont donnés eux-mêmes pour cette personne, pour mettre cette personne au monde, en prendre soin, essayer d'en faire un homme et une femme qui se tient debout devant Dieu. Alors, en faisant ça, je déshonore les parents et je déshonore la vie. Le lien entre les deux, c'est le respect de la vie. Si je respecte la vie, je vais respecter mes parents. Je vais honorer mes parents. Parce que la vie que j'ai, là, je la tiens d'eux. Hein? Peut-être que j'ai des choses à leur reprocher, mais ce n'est pas ça la question. J'ai obtenu la vie d'eux, ou ceux qui ont pris soin de moi. OK? Alors, à ce moment-là, je leur dois honneur. Ça, c'est facile. On avance la diapo. On la ravance encore. Non, là, tu recules. Et voilà. Alors là, on vient avec le fameux commandement sur le sabbat, qui est sur la tablette de Dieu, et qui est mis en parallèle avec ne pas adultérer. Alors là, je me suis dit, j'ai un problème. Vous savez, moi, quand je veux comprendre quelque chose, je l'abandonne jamais. Alors, ça fonctionnait partout, sauf que là, je trouvais ça bizarre. Évidemment, mon vrai problème, c'est mon incompréhension du sabbat, puis mon incompréhension du terme « ne pas adultérer ». On va voir la solution plus tard. Je veux juste vous donner ça ici, comme quoi ces deux commandements-là se soutiennent. Alors, en général, on prend celui-là très au sérieux. Hein? Si quelqu'un commet la faute d'adultère, il va avoir des problèmes. Par contre, si quelqu'un ne se repose pas, so what? Donc, il y en a un qu'on ne prend pas tellement au sérieux, puis il y en a un qu'on prend sérieux. Alors, je vais essayer de faire un cheminement avec vous pour vous montrer la logique de tout ça. On va avancer? Alors, le sabbat. Quand on pense au sabbat, nous, On pense au repos du septième jour. Mais le sabbat, dans la Bible, c'est un grand thème. Donc, le sabbat, évidemment, c'est cette fête qui était ordonnée chez les Juifs, une fête par semaine, quand même. Un peuple en fête, hein? Alors, une fête par semaine, le sabbat, mais il y a l'année sabbatique aussi. Donc, au bout de 7 ans, la 7e année, c'est l'année sabbatique. Et ça s'inscrit toujours dans la logique du sabbat. Alors, on va voir ça ensemble, l'année sabbatique. Et au bout de 7 fois 7 ans, évidemment, c'est encore une année sabbatique, mais il y a une année supplémentaire qu'on appelle le jubilé, la 50e année. Alors, c'est le jubilé. Et évidemment, ça suit la même logique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si les valeurs qui sont affirmées pour le sabbat sont affirmées d'une façon plus grande encore dans l'année sabbatique et plus grande encore dans le jubilé. Et derrière ça, on avance la diapo, il y a l'idée qu'il va y avoir une réalisation ultime de tout ça. Donc, c'est comme s'il a fait un effet de crescendo. Et puis, quand viendra les temps messianiques, toutes les bénédictions du sabbat, de l'année sabbatique et du jubilé vont être relâchées, être mises en application pour le bénéfice de l'humanité entière. Alors, c'est très beau, c'est de ça qu'on va voir ensemble. On avance. Alors, on va regarder certains épisodes de l'Ancien Testament, du livre de la Genèse jusqu'à l'Exode, pour essayer de voir est-ce qu'il y a un lien. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui est raconté avant, que Dieu donne la loi au Sinaï, à son peuple, qui donne une loi exprimée dans les 10 paroles, et les événements qui sont racontés dans la Genèse sont passés avant. Alors, il y a un événement très important, vous reconnaissez l'événement à cause de l'image. C'est le déluge. Alors, je vais lire le texte ici. Yahvé vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. La terre était pervertie aux yeux d'Élohim. La terre était pleine de violence, car tous s'étaient pervertis sur la terre. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahvé. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un état de l'humanité où l'immoralité et la violence est devenue telle que cette humanité n'est plus récupérable. Ça ne pourra pas s'améliorer. C'est l'état ultime où finalement un jugement doit arriver. Heureusement qu'il y a Noé qui est considéré comme juste aux yeux de Dieu et qui est au bénéfice de sa grâce, parce que finalement, l'humanité va être sauvée à travers Noé. Mais cette idée que finalement une société peut s'effondrer au point que là, ça devient l'enfer, ça se peut ça. Notre société, on pense qu'elle est à l'abri de ça, mais c'est arrivé au 20e siècle, des sociétés qu'on a vues s'effondrer pratiquement du jour au lendemain. Vous vous souvenez du Rwanda? Hein? De la Yougoslavie? Qu'est-ce qui est arrivé dans ces pays-là? C'est un effondrement de la société. Et à ce moment-là, la violence, une violence gratuite, sans retenue, se déployait. Alors, il y a cet événement-là qui est arrivé, on va avancer. Un autre événement qui arrive plus tard, plusieurs générations plus tard, est raconté dans Genèse 11. Alors, toute la terre parlait la même langue avec les mêmes mots, les descendants finalement de Noé. Et ils dirent alors, « Bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. » Et Yahvé les dispersa de là sur toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. Alors, ce texte-là, c'est la naissance des nations, des différentes nations. Alors, on peut se demander, pourquoi Yahvé, pourquoi Dieu trouvait que le projet n'était pas intéressant. Ben, si on songe au fait que lors du déluge, toute la société s'est corrompue, qu'est-ce qui va empêcher de cette société qui veut ne former qu'une seule entité retombe dans la corruption? Et qu'est-ce qui va la sauver à ce moment-là? Alors, on va avancer. Donc, comme Dieu ne veut pas recourir une deuxième fois au déluge, on voit une nouvelle stratégie se déployer dans la Bible. Alors, il appelle un homme. Genèse 12. Yahvé dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Alors, c'est comme si Dieu, maintenant que les peuples ont été créés, il va choisir un homme duquel il va tirer un peuple et il va travailler avec ce peuple. Mais on doit garder à l'esprit que Dieu est toujours concerné par le bénéfice de toute l'humanité. Alors, on avance. Et finalement, les générations passent, ce peuple devient nombreux, et puis il y a l'événement du Sinaï. Alors, au mont Sinaï, la première chose que Dieu a dit à son peuple par l'entremise de Moïse, il dit, « Maintenant, si vous m'écoutez, et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Alors, j'attire votre attention sur le fait que l'intention de Dieu, c'est de faire de ce peuple un peuple sacerdotal, un peuple de prêtres. Pas une élite qui forme les prêtres dans le peuple, mais ce qui est exprimé ici, c'est que c'est un peuple, c'est l'ensemble du peuple qui joue un rôle de prêtre. Un prêtre, c'est un médiateur. Alors, ils seront prêtres pour qui? Posons-nous la question. Probablement pour le bénéfice des nations. Mais la condition, évidemment, c'est d'écouter et de garder son alliance. Il faut écouter sa parole, prendre ça au sérieux, puis garder, ça veut dire d'être fidèle à cette alliance et de mettre en pratique sa parole. Alors, on avance. Maintenant, je pose ces questions. Je pose les questions suivantes. Première question, on avance. Y a-t-il une ligne narrative qui relie le jugement du monde de la génération de Noé et le don de la loi au Sinaï? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que Dieu veut remédier à un problème en donnant la loi? Vous savez, on a prêché beaucoup contre la loi, nous autres, les chrétiens. Mais ce matin, là, je viendrai pas prêcher contre la loi. Je vais en parler avec le plus grand respect et le plus grand sérieux. Alors, est-ce que c'est justement le problème tiendrait au fait qu'il nous manque cette loi? On avance? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ce peuple et qu'a-t-il qu'il a racheté de la servitude d'Égypte? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Quelle est son intention? Il fait ça pourquoi? Prochaine question. Et quel est son projet pour son peuple à court, moyen et long terme? Évidemment, on parle d'Israël ici. Mais comme l'Église est sortie d'Israël, ça nous concerne un peu, quand même. Alors, ce qu'on va faire comme cheminement, on va regarder les textes dans Exode, Deutéronome et Lévitique. Pourquoi c'est dans cet ordre-là? Parce que dans la loi, dans tout ce qui concerne le sabbat, dans ces livres-là, il semble y avoir un développement ou une progression des préceptes, des lois qui suit cet ordre-là. Ce qu'on trouve dans l'Exode, on trouve ça comme plus ancien. Et ensuite, Deutéronome et Lévitique, ça c'est l'apogée. Alors, je ne vais pas essayer d'expliquer pourquoi. Je sais que beaucoup de chrétiens croient que Moïse a reçu tout ça d'emblée et puis mis ça par écrit dans un seul bloc. Mais je ne vais pas discuter de ça. Je vais juste suivre cette progression-là parce qu'elle est pratique. Alors, on avance. On commence par le repos du septième jour. Et c'est là qu'on va commencer à... Je vais commencer à vous faire travailler. Parce que là, vous commencez à vous ennuyer sérieusement. Donc, le repos du septième jour. On va lire le texte. Là, on le trouve dans l'Exode. « Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. » Alors, j'ai deux questions à vous poser là-dessus. Puis, je m'attends à ce que vous participiez avec un grand enthousiasme. Alors, la première question, qu'est-ce que ce commandement veut prévenir? Qu'est-ce que ce commandement veut prévenir? D'après vous?
L'épuisement.
Pas de temps pour Dieu, l'épuisement. Ah, hein? Le scribe? Épuisement, burn-out. OK? Hein? Comme société, est-ce qu'on peut faire un burn-out? On peut faire un burn-out. OK. Alors, donc, on veut prévenir l'épuisement. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Il y a des détails quand même. Qu'est-ce que ça veut prévenir? Hein? Oui? Voilà, j'ai mentionné des immigrés ici. Hein, c'est pas juste pour les Juifs. Est-ce qu'il y a plus que ça, là? C'est une piste là, qui vient d'être ouverte. Là. Il faut l'ouvrir, la piste, oui. OK, donc éviter que finalement on oublie Dieu, on soit débordé par nos préoccupations, qu'on l'oublie. Écoutez, il faut avancer, je vais vous donner un petit coup de pouce, OK? Ben, je vais le faire. Dans ce fameux commandement du sabbat, il y a l'idée que les statuts qu'une personne a dans la société, parce que c'est une société hiérarchisée, hein? Donc finalement... les parents, ce n'est pas au même niveau qu'un fils ou une fille. Un fils ou une fille, ce n'est pas au même niveau qu'un serviteur. Donc, c'est une société hiérarchisée. Bien là, le jour du sabbat, toutes les hiérarchies là, disparaissent. Même la hiérarchie entre toi et ton bœuf. Hein, c'est quelque chose, hein? Et pourquoi? C'est justifié par le récit de la création. Dieu est en train de te dire, moi le Créateur, j'offre une journée fériée à toute ma création. Puis moi, je ne fais pas de différence. Quand même, ça c'est une législation qu'on ne trouvait pas à l'époque. C'est unique au peuple de Dieu. Alors, la deuxième question, ça mène à ma deuxième question. Qu'est-ce qu'on veut affirmer par là? Quelle est la valeur qu'on veut affirmer? La valeur majeure de ça? Égalité? OK. Est-ce qu'on peut sortir un autre mot? Oui? J'ai pas compris. Oui. Le fait que Dieu est... Il règne, c'est ça? OK, oui. Ouais.
Que c'est important.
C'est intéressant parce que c'est un commandement qui dit que finalement, tous ont une même dignité. OK? Aux yeux de Dieu, aux yeux du Créateur. On va avancer avec le prochain. Faut avancer, OK? Faut avancer. Alors, une autre mesure de l'Exode par rapport justement, qui s'inscrit dans la logique du sabbat, Exode 21. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, on ouvre un gros sujet là, OK? Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il te servira 6 années. La 7e année, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'elle lui ait donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître. Il sortira seul. Pas sûr que vous aimez ce commandement. Évidemment, c'est un commandement ancien qui s'inscrit dans un contexte qu'on ne connaît pas aujourd'hui. OK, il y a une question de propriété là-dedans. Mais est-ce que mon intention, et c'est toujours la même question, qu'est-ce que cette directive veut prévenir? Qu'est-ce que ça veut prévenir? D'après vous?
L'abus.
L'abus.
L'abus envers les personnes, envers la créature de Dieu.
Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que ça veut prévenir l'abus? Oui, il y a un terme. Vous savez, dans l'époque, quand tu deviens esclave, là, il n'y a pas de date de préemption. Là. Tu ne vas pas sortir de ton état d'esclavage, à moins que ton maître, par une grâce inouïe, t'affranchisse. OK, alors, ici, il dit, tu achètes un esclave hébreu, il te sert 6 années, pas plus. Il doit retrouver sa liberté. Alors, qu'est-ce qu'on veut prévenir? On l'a devant la face, là. Oui? Voilà. Voilà. Donc, tu ne peux pas être maître d'une personne comme ça, ad vitam aeternam. Et puis, étant donné que c'est un Hébreu, il devrait avoir droit à la liberté. Ils ont été libérés, les Hébreux, d'Égypte? De l'esclavage, en plus? Y a-t-il un lien? Bien, probablement. On avance. Un répit à la terre. On parle beaucoup de la terre à notre époque. Alors, pendant 6 années, tu ensemenceras ta terre et tu en récolteras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras un répit et tu la laisseras tranquille. Les pauvres de ton peuple mangeront et les animaux sauvages mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Alors, on répète la loi du sabbat ensuite, pendant 6 jours, ainsi de suite. L'accent que je vais mettre, c'est sur le répit à la terre. Donc, la 7e année, la terre doit être mise en repos. Alors, qu'est-ce qu'on veut prévenir ici? Pardon?
L'épuisement des sols.
L'épuisement des sols?
Oui.
Qui a dit ça?
Moi?
Oui?
On est sur le point qu'il n'y a plus rien qui peut se pousser nulle part parce que ça a trop été exploité. C'est
sûr que Dieu l'a évité, certainement. OK. Oui. C'est intéressant, hein?
Il a dit le réchauffement climatique tout à l'heure.
Le réchauffement climatique? OK, ouais, OK. Tantôt, on a dit qu'il y avait une limite à l'utilisation de la force de travail d'une personne. Est-ce qu'on applique la même logique à la terre ici? La terre a droit à son repos aussi. C'est intéressant de voir ça. La terre a droit à son repos. Et dans cette année-là, on dit que c'est une année finalement où encore une fois, les barrières de discrimination, même de propriété, disparaissent. Alors, ce que la terre va donner d'elle-même, parce que la terre va continuer à produire certaines choses, c'est pour tout le monde. Imaginez, c'est pour tout le monde. « Oui, mais t'as peu, t'es sur ma propriété, toi, là, sac ton cas d'ici. » Non. OK? Ce que la terre donne à ce moment-là, c'est pour tout le monde, c'est même pour les animaux sauvages. Alors, qu'est-ce qu'on affirme ici? Qu'est-ce qu'on affirme? Hein? Ben, c'est ça. Que la terre a droit à son repos, puis que finalement, que la terre est pour tout le monde. En temps normal, dans le temps normal, c'est pas ça qui se passe. OK? Mais Dieu décrète qu'il veut affirmer ça, lui. Que la terre est pour tout le monde. On avance. Une remise de dette tous les 7 ans. Et qu'on aurait besoin de ça. Faudrait écrire au gouvernement, là. Hein? On a un nouveau gouvernement au Québec, là. On pourrait leur proposer ça. Une remise de dette générale. Alors, Deutéronome 15, on est dans Deutéronome. Au bout de 7 ans, tu feras la remise. Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain en fera la remise. Il ne pressera pas son prochain ou son frère quand on aura proclamé la remise pour le Seigneur. Tu pourras presser l'étranger, mais tu feras remise de ce qui t'appartient chez ton frère. C'est ça, oui? Bon. Alors, la remise, là, c'est que une clairance de dette. Là. Tu me devais telle quantité de blé, là, ben, oublie ça, là. C'est zéro, j'ai écrit zéro. Tu ne me dois plus rien. Sois heureux, cher ami, tu ne me dois plus rien. Pensez-vous qu'il n'y avait pas des objections qui montaient du cœur de l'homme à des lois pareilles? Alors, qu'est-ce qu'on veut prévenir ici? On ne devrait pas avoir de misère à répondre à ça, oui?
La manipulation. Parce que l'autre homme a une dette, tu as une bonne dette, de l'argent, quelque chose on veut, cela peut manipuler, il y a plus de manipuler.
Oui, c'est un pouvoir qu'on a sur les autres. Hein? Quelqu'un nous doit de l'argent, il est notre esclave. Hein? Le surendettement, oh là là qu'on est là-dedans. Hein? Le surendettement, on veut prévenir que finalement, par surendettement, des gens perdent tout espoir. À l'époque, il n'y a pas de programmes sociaux. Là. Alors, si tu as donné des choses de tes biens en garantie parce que tu étais vraiment mal pris, puis il faut que tu te débrouilles tout seul, il n'y a pas de programmes sociaux. Bien, à un moment donné, tu risques de te retrouver en esclavage, à un moment donné, juste à cause de tes dettes. Alors, cette idée-là, c'est que finalement, on dirait que le Rédempteur d'Israël, moi, je veux que mon peuple soit libre. Libre de dettes. Hey, on devrait réfléchir à ça. Est-ce que notre endettement, là, vous êtes jeunes, vous autres, là, vous avez le choix, là. Est-ce que vous allez vous surendetter ou pas? C'est possible de faire un choix là-dedans. C'est possible. Bon, je parle de surendettement. Hein? Surendettement, là, c'est que tu as tellement d'endettement. Là. Je leur donne un exemple. Là. Actuellement, les Canadiens là, doivent 160 % de ce qu'ils gagnent. Ça, c'est la moyenne canadienne. Comment tu peux arriver avec ça?
Impossible.
Mais non, tu creuses, tu t'enfonces. Alors, pour éviter que ça arrive... On avance?
Denis,
oui.
Je trouve que ça met une limite au prêteur aussi. Si le prêteur sait que la 6e année qu'il doit libérer celui à qui il a prêté, il va se modérer dans ce qu'il crée comme besoin de remise, parce qu'il sait que s'il ne peut pas le remettre au bout de 6 ans, probablement qu'il ne prêtera pas en temps. Donc, il y a une limite.
Oui.
La part du prêteur avec
Oui, mais il y a quand même, dans la je ne l'ai pas cité, le passage, il y a un passage qui dit, attention toi là, dis-toi pas que la septième année, c'est dans 2 ans, puis qu'à cause de ça, tu vas refuser de prêter à quelqu'un qui est mal pris. OK? Fais jamais ça! Parce que Dieu ne sera pas de ton bord, c'est ça, c'est sûr. OK? Alors, il y a un enseignement sur la responsabilité sociale. On est responsable. On doit être solidaire. On avance. Tu ne fermeras pas ta main. C'est-tu celui-là? Attends un peu. S'il y a chez toi un pauvre parmi tes frères, dans l'une de tes villes, dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne, tu ne t'entêteras pas et tu ne fermeras pas la main à ton frère pauvre. Tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras sur gage de quoi pour voir à ses besoins. Ah oui, voilà. Garde-toi de tenir un raisonnement sans morale, en te disant, la septième année, l'année de la remise approche, de regarder d'un œil mauvais ton frère, pauvre, et de ne rien lui donner. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut prévenir? Bien, on veut prévenir que des gens deviennent tellement pauvres que finalement, c'est tout leur avenir qu'ils compromettent. Qu'est-ce qu'on veut affirmer? On parle de ton frère ici, quelqu'un parmi tes frères. Qu'est-ce qu'on veut affirmer?
Que personne ne devrait se retrouver dans la misère la plus noire.
C'est ça. Que c'est une responsabilité de tous. De faire en sorte que ça n'arrive pas. On avance. Une libération tous les 7 ans. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu le couvriras de présents pris sur ton petit bétail, sur ton aire, sur ton pressoir. Tu lui donneras des biens par lesquels le Seigneur ton Dieu t'aura béni. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a libéré. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui cet ordre. Qu'est-ce qu'on veut prévenir? On a vu déjà dans le livre d'Exode que ça disait que si tu prends un esclave hébreu, il faut que tu le renvoies libre au bout de 7 ans. Mais là, on semble adresser un autre problème. C'est que si tu le renvoies libre au bout de 7 ans, puis qu'il n'y a pas un sou vaillant, comment est-ce qu'il va faire pour partir dans la vie? OK? Il risque de retomber dans le cycle de la pauvreté assez vite. Alors, c'est comme une responsabilité. Tu vas non seulement le laisser partir, mais tu vas lui donner une belle prime de départ. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, il ne parle pas de pourcentage ici, là, mais ça doit être généreux. Alors, évidemment, on veut prévenir qu'il y ait des gens qui tombent dans le désespoir. Alors, on affirme quoi ici? Quelle est la grande valeur qu'on affirme? La quoi? Générosité. Être sensible au malheur des autres.
Le partage.
L'égalité. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, puis on devrait prononcer. Solidarité. Solidarité. C'est ton frère, tu ne peux pas le traiter n'importe comment. On avance? Alors, c'est intéressant, on a un exemple d'application dans l'Écriture de ce cas-là, de cette situation-là. En général, on ne sait pas jusqu'à quel point Israël a suivi la loi du sabbat. On ne sait pas. Mais on a une histoire ici dans Néhémie, lors du retour de l'exil, et il y a une situation qui s'est présentée assez spéciale. Alors, le peuple s'est plaint. Le peuple s'est plaint. Il y avait une famine. C'était difficile le retour d'exil. Et beaucoup de gens manquaient tellement du nécessaire qu'ils avaient mis en garantie le peu qu'ils avaient de leur propriété pour recevoir du blé, juste pour survivre. Donc, c'est comme tu vends ta maison pour du blé. Et puis, les notables, les gens les mieux nantis des exilés qui étaient revenus, leur avaient prêté à intérêt. Et puis, quand Néhémie a entendu ça, les plaintes du peuple, il n'a pas trouvé ça drôle. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La colère de Néhémie. « Je résolus de faire des reproches aux notables et aux magistrats, et je leur dis, « Quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? » Et je convoquai ainsi à leur sujet une grande assemblée. Je leur dis, « Nous avons racheté, selon nos moyens, nos frères judéens vendus aux nations. Vous, vous vendriez vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. » Ne trouvant rien à répondre, ils se turent. Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur cette dette, je vous en prie. Je vous en prie, rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent, du blé, du vin et de l'huile que vous avez exigé d'entre eux comme intérêt. Donc, ils avaient prêté à 1%. Ils trouvaient que c'était immoral. Néhémie. Alors, on le voit ici en application. On peut-tu faire ça à nos propres frères? Est-ce qu'on ne doit pas être solidaires de notre nation? On avance? Alors, un commentaire ici d'un monsieur Paul Bonny qui résume un peu les valeurs qu'il y a dans ses lois sur le sabbat. Ce qui est en jeu à travers ces pratiques de fraternité et de solidarité, c'est l'actualisation de l'œuvre libératrice de Dieu, du Dieu de l'Exode. L'écrasement des pauvres en est la négation. Israël risque de perdre alors son identité de peuple de Dieu, que Dieu a fait sortir de la maison de servitude. Et par là même, il obscurcit l'image de Dieu dont il se réclame. Alors, si nous qui avons été libérés tous ensemble de l'esclavage en Égypte, on finit par asservir nos propres frères en esclavage, puis faire en sorte qu'à cause de la pauvreté de certains, l'esclavage se réinstalle dans notre nation. Bien, à ce moment-là, on ne peut pas se réclamer de la libération que Dieu a faite de l'esclavage de l'Égypte. On ne peut même pas se réclamer de ce Dieu-là. On avance? Alors, on va voir la dernière partie qui est dans le Lévitique, une rédemption pour la terre. Le Lévitique met beaucoup l'accent sur la terre. On avance. Alors, dans le Lévitique, on parle d'un sabbat pour la terre tous les 7 ans, comme on avait dans l'Exode. Et tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans. La durée de ces 7 sabbats d'année sera de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir la trompe de l'acclamation, le jour de l'expiation, c'est-à-dire le Yom Kippour. Tu feras retentir la trompe dans tout votre pays. Vous consacrerez la 50e année et vous proclamerez la libération dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous reviendra dans sa propriété, chacun de vous reviendra dans son clan. Alors, on a la même caractéristique que l'année sabbatique, repos de la terre, plus une libération. La terre elle-même ne se vend ni s'achète. Sa valeur marchande est déterminée par le nombre de récoltes avant le prochain jubilé. Alors, on explique dans le Lévitique que tu ne peux pas acheter la terre. Tu ne peux pas l'acheter, tu peux juste la louer, en quelque sorte. Et cette terre-là, qui appartenait à quelqu'un, qui fait partie de l'héritage que Dieu a donné à son peuple, il leur a donné chacun un héritage en Israël. elle doit retourner à son propriétaire au bout de 50 ans. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut prévenir? Qu'est-ce qu'on veut prévenir avec une loi pareille? C'est intéressant pour notre société, ça. Oui? Que
Dieu nous loue la terre,
ouais.
Et qu'on ne doit pas prendre à qui c'est ma terre, c'est moi qui l'ai acheté à tel point, de reconnaître que c'est Dieu qui nous a loué.
C'est intéressant, non, faut noter ça absolument, OK? Il faut noter ça absolument.
Mais aussi,
qu'est-ce qui risque d'arriver dans une société où il n'y a pas de programmes sociaux? Et puis, les gens qui sont mal pris, OK, deviennent tellement mal pris, des fois, qu'ils sont obligés de, finalement, vendre leur propre terre. OK? Qu'est-ce qui va arriver dans une société-là au bout d'un certain temps?
Il n'y a plus d'héritage pour cette famille-là. Donc, c'est comme si elle disparaissait au fond. Quelque part, c'est le terre, son nom est oublié.
C'est ça. Plus d'héritage. Tu deviens esclave, OK? Tu n'as plus d'héritage. Et puis, à un moment donné, toutes les terres se retrouvent entre les mains des plus riches. OK? Parce qu'évidemment, quand il y a une situation difficile, les plus riches s'en sortent mieux. Donc, ce qui risque d'arriver, finalement, c'est qu'on va se retrouver avec une classe très riche, des gens dans l'abondance, et puis finalement, un grand vide entre les deux, puis des gens très pauvres. Puis ça ressemble beaucoup à notre société actuellement. Oui?
Je trouve que ça révèle tellement ce que Dieu connaît sur le cœur humain. Je veux mettre des barrières comme ça.
Ouais.
Je vous connais tellement que je veux mettre des barrières pour vous empêcher de tomber dans quelque chose d'extrême et de grave.
Exactement.
Donc, c'est des barrières qui nous libèrent, parce que ça nous libère de cette méchanceté qui pourrait arriver en mettant ces gens derrière.
Oui, parce que dans le fond, ce qui s'oppose à ça, c'est notre désir de tout avoir, puis de penser juste à nous-mêmes. OK? On avance. Où est-ce que j'en suis dans le temps, là?
5 minutes.
Bon. Il y a deux revendications dans le Lévitique qui expliquent pourquoi c'est comme ça. Première revendication, c'est des revendications du Créateur, qui est le Rédempteur d'Israël. La terre ne se vendra pas à titre définitif. Le pays m'appartient. Et vous êtes chez moi des immigrés et des résidents temporaires. Dans tout le pays qui est votre propriété, vous accorderez un droit de rédemption pour la terre. Si ton frère devient pauvre et doit vendre une portion de sa propriété, son rédempteur, son plus proche parent, pourra venir reprendre ce que son frère a vendu. Alors, Dieu revendique que finalement, la terre, même si tu l'habites, en dernier recours, n'est pas à toi. Tu es chez quelqu'un d'autre. C'est intéressant, ça. On avance? Deuxième revendication. Si ton frère devient pauvre chez toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un résident temporaire. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui, ses fils avec lui, et il reviendra dans son clan, dans sa propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs, je les ai fait sortir d'Égypte, on ne les vendra pas comme on vend des esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec rudesse, tu craindras ton Dieu. Deuxième revendication du Dieu d'Israël, il dit, ton prochain, il n'est pas à toi, il est à moi. C'est mon serviteur. Non seulement tu es dans la propriété de quelqu'un d'autre, mais tu es entouré des serviteurs de quelqu'un d'autre. On va voir les implications, on avance. Alors, voici les implications. Je vais faire une parabole avec ça. Moi, quand je me suis marié, je n'avais pas un sou vaillant. OK? Puis je me suis marié pareil. Donc, c'est possible de se marier même si on est pauvre. Alors, tenez ça, c'est très important. Et puis, quelqu'un, un chrétien, qui avait un beau chalet sur le bord d'un lac, un chalet magnifique, nous l'a prêté pour notre voyage de noces, 2 semaines, dans le chalet de quelqu'un d'autre. Extraordinaire comme expérience, on pouvait faire du canot, extraordinaire. Mais quand on est dans la propriété de quelqu'un d'autre, habituellement, il y a une petite pancarte quelque part dans la maison, parce qu'on n'est pas les premiers à qui il fait ça, une grâce de nous prêter son chalet, il y a les règles de la maison. Et c'est les règles du propriétaire, parce que c'est sa maison après tout. Donc, je dois respecter les règles du propriétaire. Alors, évidemment, je ne fais pas ce que je veux. Si j'étais chez moi, j'établirais mes propres règles. Mais là, je suis dans la maison de quelqu'un d'autre, je dois suivre ses règles. Alors, c'est lui qui a établi les règles, comment se comporter à l'égard de sa propriété. Faisons un rapport avec la terre. La terre est à Dieu. C'est lui qui en établit les règles. C'est sa propriété. Je ne peux pas faire ce que je veux. Il faut que je fasse attention. À la terre, c'est un don, c'est une grâce, c'est quelque chose qui m'est prêté et dont je dois prendre soin. Alors, imaginez non seulement que c'est comme ça, mais on va rajouter une dimension de plus. Je travaille pour l'entretien d'une propriété. La propriété n'est pas à moi, est à mon maître. Et tous ceux qui travaillent là, qui font des travaux différents des miens, ils travaillent pour le même maître aussi. Alors là, non seulement je ne suis pas dans ma propriété, mais je ne suis pas entouré de gens qui m'appartiennent. Je ne m'appartiens pas moi-même. Je suis au service du maître qui m'a engagé pour prendre soin de sa propriété. Et chacune des personnes qui sont là sont au service du maître. Et si je maltraite un autre des employés qui travaille au maintien de cette propriété, je vais avoir affaire au maître. Parce que c'est le maître. Alors, il y a l'idée là-dedans que si Dieu est honoré et reconnu comme le propriétaire du monde, le propriétaire de tout ce qu'il nous a donné, et si Dieu est le propriétaire de chaque personne, et si Dieu est le propriétaire de moi-même, je ne pourrais pas faire ce que je veux avec moi-même, je ne pourrais pas faire ce que je veux avec les autres, puis je ne pourrais pas faire ce que je veux avec mon environnement. Je ne pourrais pas être le grand maître de l'histoire. Je vais être au service du maître. On avance? Alors, je reviens ici sur la fameuse histoire. À partir de tout ce qu'on a vu, on voit que le sabbat, c'est un droit de Dieu, c'est l'affirmation du droit de Dieu en tant que créateur et rédempteur de son peuple, de faire valoir son droit puis de dire « Voici quelles sont mes valeurs, voici ce qui doit être respecté. » Évidemment, quand je respecte le droit de Dieu, je dois respecter le droit du prochain. Parce qu'on n'arrête pas de parler de droit depuis tantôt. Le droit des autres, le droit au respect, le droit à la dignité, le droit à l'espérance, le droit de recevoir de l'aide, le droit de recevoir de la compassion, d'être traité avec égard. Et ce commandement ici, ne pas adultérer, on l'associe juste à la question sexuelle, nous, là. Mais c'est plus vaste que ça. Parce que ne pas adultérer, c'est de ne pas tricher, de ne pas tromper, de ne pas falsifier, de ne pas priver les gens de leurs droits. Alors évidemment, si je commets l'adultère avec une femme mariée ou une personne mariée, je piétine le droit de quelqu'un. C'est ça, eux autres, ils voient ça sous l'angle du droit. OK? Alors ici, c'est la question de respecter le droit de mon prochain, qui est l'essence de ce commandement-là. Puis le sabbat contient aussi cette idée de respecter le droit et de Dieu et du prochain. Alors ça se tient. Ça se tient tout ça. On avance? Et je termine là-dessus. Quand les Juifs commentent cette partie du Lévitique, Lévitique 25, qui parle de la loi de l'année sabbatique et du jubilé, ils vont jouer sur deux mots qui sont utilisés dans la première lecture, dans la première phrase. Alors, au mont Sinaï, le Seigneur dit à Moïse, « Parle aux Israélites, tu leur diras quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne. » Parle et dire. Ils vont jouer sur les nuances entre ces deux mots-là. Et le premier mot, « parle », c'est un mot qui est fort. Hein? Quand je dis, « Hey, là, il faut que tu parles à Ruben. » Oh boy, Ruben, il est mieux de se préparer. Okay? Il va se faire parler. Okay? Donc, même dans notre langue, un petit accent, il y a quelque chose de fort. Alors, on dit, il commence par dire « parle, le Seigneur, parce qu'il est en droit d'exiger qu'on respecte son droit. Il est en droit d'exiger qu'on applique ses règles sur le sabbat, sur le respect de l'autre, sur le respect de soi-même. Il est en droit de l'exiger. Il est le maître. Ensuite, on va insister sur le mot « dire ». Dire, c'est un mot doux. Hein? C'est « emor » en hébreu, c'est un mot qui est doux. Un sens doux. Alors, quand tu dis à quelqu'un, tu lui parles à l'oreille. OK? Et on dit, les rabbins disent, le Seigneur est en droit d'exiger, puis en même temps, il est doux avec nous. Parce qu'il voudrait qu'on réalise ça par nous-mêmes. Il voudrait ne pas avoir à nous l'imposer. Il voudrait ne pas avoir à utiliser la force pour qu'on comprenne. Il voudrait que ça vienne de nous. Donc, on insiste sur le côté doux du mot « dire ». Et c'est vrai. Je le dis parce que c'est vrai, ça. Personne ne va se faire tordre le bras sur la question de respecter ces règles-là de repos, respecter l'autre, les relations humaines, être délicat, être attentif aux besoins des autres. Personne ne va se faire tordre le bras. Mais c'est quelque chose qu'on devrait comprendre. Et le comprendre par nous-mêmes, c'est dire, bien, à ce moment-là, je devrais vivre autrement. Je devrais vivre autrement. On avance? Alors, un rabbin ici, qui nous laisse cette pensée, l'année jubilaire a pour but essentiel d'implanter dans le cœur de tout Israël la foi et la confiance absolue en Dieu. Et c'est de ça qu'on a besoin. Je trouve que le commentaire est bon, parce qu'il résume bien le but de cette institution du sabbat, c'est que ce peuple apprenne à faire confiance en son Dieu.